de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Je voudrais que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois un musée et un centre de création, où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres et la recherche audiovisuelle, avait dit Georges Pompidou en décembre 1969 pour lancer son projet de musée Beaubourg en plein cœur de Paris. Une triffinerie, se plaindront plutôt certains riverains. Quand Renzo Piano a commencé à ériger ce qu'on nommera plus tard le centre Pompidou, Brian Geisen s'est mis à photographier. Compulsivement, il a tout documenté. Le 1er février 1977, très exactement le lendemain de l'inauguration de Beaubourg, le producteur Jean Montalbetti consacrait une émission au chantier sous le haut patronage de Georges Pompidou. Le photographe compulsif lui servait de guide pour raconter l'histoire de ce chantier de tuyaux en plein ventre de Paris. Pompidou, lui, était mort 2 ans et demi avant l'inauguration.
Je vis autour depuis le commencement, n'est-ce pas, en le photographiant tant que je pouvais, et puis qu'on ait posé les premiers jalons de ce qui est maintenant le musée.
Novembre 1976.
Le trou qui était ne m'intéressait pas beaucoup, pas plus que le trou de Halle en face.
Un chantier dans la ville.
Mais dès qu'ils se sont mis à ériger quelque chose là-dedans, je me suis mis à le photographier. Alors ça fait quoi, 3 ans, non? Alors, quand j'ai pu trouver un endroit qui était juste en face, qui me donnait cette possibilité
à
de
fenêtre,
voir naître un homme devant mes yeux, j'ai pris ce local au mois de juin dernier. Et voilà, on ouvre la fenêtre. Et vous voyez que nous entrons presque dans Beaubourg. Et effectivement, j'ai des jumelles de 400 mm que je vous ferai voir tout à l'heure, n'est-ce pas ? Avec ce que j'ai, on peut lire les gros titres d'un journal que quelqu'un lirait dans les bureaux d'en face.
Un bâtiment de verre et d'acier dans le regard de cet homme. Cet homme dans le regard de ce bâtiment. Ni une maison, ni un building, un lieu de parole. Brian Geisen, peintre, écrivain, américain.
Je crois que chaque artiste est voyeur. Chaque peintre qui réagit en contact avec la réalité est voyeur, effectivement, oui. Mais même les toutes petites choses, j'aime bien les voir avec la loupe. Je vais de la loupe aux jumelles, en passant par l'appareil photographique avec un objectif de 200 mm. Et tout ce que j'ai photographié a été photographié avec un 200 mm. Mais c'est très beau, il faut dire, vraiment, regardez-moi ça. C'est d'une complexité presque à l'infini, n'est-ce pas? Moi, je dois dire que j'ai toujours eu un parti pris pour les échafaudages, n'est-ce pas? Je n'essaierai pas de convaincre ceux qui n'ont pas trouvé ça beau, mais ça m'a toujours inventé comme une expression même de l'esprit. Enfin, pour moi, c'est une, c'est vraiment comme le mécanisme de la pensée que de voir ces choses qui montent. Enfin, ça a un côté plante également, dans le sens que l'architecte du Crystal Palace de 1852 comprenait la structure des choses. Je trouvais que c'était la structure en évidence, n'est-ce pas, comme le squelette à l'extérieur, si vous voulez. Là, c'est exactement ce qu'on a voulu faire, n'est-ce pas. Au lieu de faire un bâtiment dont la façade n'était que la peau, on a voulu construire des choses suspendues dans l'espace, tenues dans l'espace par la tension, avec leurs artères, leurs poumons dehors, parce que voilà, l'air va entrer par ces grands entonnoirs bleus qui sont là en haut, et ainsi de suite. Enfin,
il y a à peine 2 heures, Jean Pézieux, le coup d'envoi de l'édification du centre du plateau Beaubourg à Paris a été donné.
Oui, le centre du
19 novembre 1970.
C'est le centre d'art contemporain voulu par le président de la République, Georges Pompidou, et qui doit être construit dans la partie est du carreau des anciennes halles de Paris. Ce matin donc, M. Bordaz, qui avait été le responsable de l'exposition française à Moscou et du pavillon français à l'exposition de Montréal en 67, M. Bordaz, donc délégué par le gouvernement français pour la réalisation de ce centre, a présenté à la presse le programme qui va être envoyé à 20 000 architectes en France et dans le monde entier pour qu'ils fassent connaître leurs projets et leurs idées. Le président de la République est pressé, il l'a dit, les architectes devront remettre leurs documents le 15 juin 71. Et le jury, 9 personnes, dont seulement 4 Français, désignera le lauréat à l'automne et les travaux devront être terminés 5 ans plus tard, au pire, au début de 1967.
Ce qu'on appelle la charpente primaire représente environ 12 500 tonnes d'acier. Qu'on appelle la charpente tertiaire, c'est-à-dire toutes ces passerelles qui justement permettent la maintenance de tous les corps d'état techniques, de tous les escaliers de secours, aussi bien du côté de la rue d'Urnard que du côté Piazza. Cet ensemble représente environ 2500 tonnes d'acier. Tout le support du bâtiment superstructure est uniquement métallique. Oui. Avec des planchers béton.
Tout ce qui est sécurité, notamment sur la détection incendie, évacuation, clapet coupe-feu, fermeture coupe-feu, etc. C'est un bâtiment qui est considéré comme très sûr. Ce bâtiment constitue une information en soi, puisque c'est un des seuls où le grand public peut voir comment vraiment est construit un bâtiment. Dans une tour moderne comme à la Défense ou à la tour Montparnasse, à partir du moment où le public a accès dans le bâtiment, tout est caché par les fermetures, gaines, etc. Tandis qu'ici, justement, l'architecte a voulu que tout reste apparent.
Ce n'est pas une expression de moi, de mon moi, n'est-ce pas, dans le sens où beaucoup des artistes modernes n'ont que ça à offrir, ne parlent que de ça, sans les nommer, ni les mouvements, ni les individus. Il y a beaucoup de moi sur le marché, n'est-ce pas. Et je trouve que voilà, le bâtiment même n'est pas centré dans cette façon. Ça explique tout ce mécanisme-là du premier coup d'œil, sans mystère. Ça peut continuer dans tous les sens. Ça pouvait continuer en bas 10 étages ou 100 étages tout aussi bien, ou monter dans le ciel, ou d'ajouter... Ça n'a pas de façade. On appelle ça la façade ouest. Mais cette façade pouvait continuer et venir jusqu'à ma fenêtre, très bien. Et donc c'est un objet très vivant. C'est plus vivant que les bâtiments anciens qui avaient leur forme... qui avaient leur généalogie, leur ascendance. Ça, c'est un élément qui est à la fois jouet éternel. Il y a une jeunesse dans ce bâtiment qu'on ne trouve pas dans la pierre, n'est-ce pas? C'est là où je prendrais le parti métallique.
Pour eux, c'est plus le même quartier. C'est comme si on les avait changés de quartier, qu'on avait mis une rue du peuple au milieu de choses tout à fait incongrues pour eux. Alors bien sûr, ils disent oui, c'est beau, ou n'importe quoi, c'est moderne, enfin... L'année dernière, je voyais tous les jours des gens qui ont été vidés des logements là, qui sont en face, venir voir leur logement. Tous les jours, j'ai même vu des petites vieilles qui pleuraient.
Rue de la Verrerie, rue Saint-Merry, une boucherie qui s'appelle Boucherie du Musée, déjà, rue Pierre-Aulard, hôtel de l'Univers, bains-douches municipaux.
Ah ben, ça a été gardé grâce à Pontus Hulten, qui a gardé pas mal d'immeubles dans le quartier en disant qu'il fallait absolument pas le détruire, et il tenait beaucoup, beaucoup à ses bains municipaux. Il ne voulait pas que le quartier devienne méconnaissable, qu'il y reste au moins quelques repères, quelques points de repère, des immeubles de repère, pas simplement là, n'est-ce pas, où il y a du faux le plus flagrant. Vous voyez cette façade ?
Une maison de 4 étages à l'angle de la rue Quincampoix. Des fenêtres, des rideaux. Une femme soulève un rideau, regarde la rue et Beaubourg.
Ces 4 étages, ce sont des peintures pour représenter ces fenêtres. C'est du trompe-l'œil, où ça veut l'être, n'est-ce pas?
Une chose, si on va perdre, on a perdu déjà près de 100 milliards à la Villette, de l'argent de Garché, et ici nous en perdrons peut-être 150 milliards.
Si on a perdu déjà près de 100 milliards à la Villette,
de l'argent de Garché, et ici nous en perdrons peut-être 150 milliards, et puis ça ressemble à rien.
C'est un quartier
tout le monde avec des boutiques, n'importe quoi, mais toujours pas un monument comme ça.
Que des boutiques.
Ici, c'est une réfilerie pour moi.
C'est une boutique qui vous intéresse.
Boutiques, non, dans l'ensemble, de tout, pour que ça soit bien beau. Nous avons ici dans le quartier, c'est rénové. On renève tout pour que ça soit très joli, le quartier, vu que nous faisons partie du Marais. Alors là, ils esquintent le Marais
ici
avec
dans
ça.
Le quartier, c'est rénové.
On renève tout pour que ça soit très joli, le quartier, vu que nous faisons partie du Marais. Alors là, ils esquintent le Marais avec ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, car c'est une honte de monter un monument comme ça. C'est une tréfilerie, qu'on dirait.
Et c'est un lieu de parole ou un dialogue de sourds.
Qu'est-ce qui est joli d'après vous ?
N'importe quoi, des immeubles, quelque chose de beau, des boutiques, quelque chose de moderne et tout. Je m'excuse de vous le dire, c'est une honte. Je ne critique pas. Ce n'est pas une critique que je fais, c'est une honte d'avoir fait des travaux. Et si ça coûte un prix fou. Et donc peut-être dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte, regardez-moi la tête que ça a. On dirait une trifilerie de pétrole. Alors regardez exactement, rue Londres, regardez-moi la tête que ça a. On dirait une trifilerie de pétrole. Du renard. Regardez, là, vous voyez les tours qui vont être à part mon arbre. Pour moi, c'est une honte. Celui qui dirait le contraire, je le prends au mot tout de suite, n'importe quel.
Comment répondre à ça? Les gens qui veulent être dans leur bon vieux intérieur douillé n'aimeront pas ça, mais ce n'est pas fait pour ça, évidemment. C'est fait pour passer. C'est pas fait pour vivre, faire du camping dedans. Ça, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est un endroit de passage qu'on a créé. Et on compte voir passer peut-être 10 000 personnes par jour là-dedans. Et c'est un bâtiment qui est fait pour vivre ce que ça vivra. On peut imaginer également que ça pouvait être démantelé d'ici un siècle ou d'ici 10 ans. Et ça aurait déjà fait son effet, ça n'a pas d'importance. Les petits commerçants avec qui on a parlé ont dit que ça coûtait très cher. Et il est évident que la culture coûte très cher. Et je suis très heureux de croire, je ne sais pas si j'ai raison, que la culture coûte à l'État plus cher que la guerre. J'ai souvent prétendu que le jour où on a inventé un musée d'art moderne, on était devant un problème tout à fait nouveau, parce que l'art devenait ou devait être moderne toutes les semaines, ou tous les mois au moins, ce qui n'avait jamais été le cas dans le passé.
Ça va profiter qui ? Les curieux ?
C'est l'ancien président de la République qui sortait de notre département, alors c'est pour ça, hein. Georges Pompidou, hein. Mais c'est vraiment pas joli, hein. Trop moderne, dans un quartier aussi vieux.
Ouais, les arbres n'ont pas tant pour nous, vous savez, hein. Ça m'étonnerait. Moi, je suis qu'un agriculteur. Je suis aussi du pas loin de Pompidou, là-bas. Je suis de l'Auvergne.
Il y a 8 jours, j'y ai passé, il y avait encore les échafaudages. Aujourd'hui, c'est un léger mieux. Je ne sais pas ce que j'attendais. Il y a un an, je suis passé, il était en construction tout à fait. Ce qui me chagrine le plus, c'est que toute la ferraille, qu'on avait fait travailler la métallurgie française, ça vient tout d'Allemagne. Alors ça, c'est un problème. Les ouvriers français d'abord, le franc ne révalue pas, le marque ne révalue. Hein. Georges Pompidou, c'était un homme pour moi, mais son bâtiment ne vaut rien. Absolument rien.
Moi, c'est une ordure et ça coûte très cher pour les ouvriers qui doivent payer les impôts. Voilà. Alors, ça va coûter presque 1 milliard, nouveau. Même plus, oui, 1 milliard, on dit, enfin. Alors, et vive la France!
Un lieu de parole? Ou un dialogue de sourds.
Voilà les photos, les toutes dernières que j'ai faites de Beaubourg, en couleur, n'est-ce pas? Et de la façade que ce vieux monsieur de 72 ans a tellement dénigré. Il a dit, c'est beau ça, c'est joli, mais regardez-moi ces couleurs, cette construction, ça fait le plus beau jouet de notre temps. Il est trop vieux, lui, pour comprendre les jouets. Et c'est pour ça que je voulais lui demander ce qu'en pensaient ses petits-enfants. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais il est certain que n'importe quel garçon de l'âge qui serait son petit-fils trouverait ça très beau, n'est-ce pas? C'est ravissant du point de vue couleur, dessin, substance, construction, enfin, à tous les points de vue. Cette beauté viendra à l'œil de l'observateur un peu plus tard, peut-être, parce que selon un mot célèbre, dit-on, de Chanel, qui a dit que la différence entre la mode et l'art était que la mode était tout de suite jolie et demain c'était laid. Tandis que l'art était choquant, laid à la première vue, et que longtemps peut-être, ou un certain temps après, on se rendait à l'évidence et on le trouvait beau. Même la contradiction qui semble évidente à ces gens-là de mettre une chose pareille dans un quartier tel que le Marais, le fera ressortir comme un bijou est sorti dans une bague, il n'y a pas à dire.
Rue Simon Lefranc, rue Geoffroy Langevin, rue des Lombards, un hôtel borgne, une charcuterie avec un comptoir où l'on peut manger et boire. Rue Nicolas Flamel, rue Rambuteau, des façades aveuglées de parpaings attendent la démolition. Dans un immeuble non encore restauré, rue Quincampoix, un café bois et charbon de 3 mètres sur 4, mal éclairé, où l'on s'entasse avant la fermeture.
Que l'évidence est malheureusement immédiatement visuelle au point de vue de ceux qui savent voir, mais que la position que je prends est très défendable étant donné que ça fait partie de mon œuvre déjà depuis une quinzaine d'années, n'est-ce pas? C'est la suite de ce que j'ai fait qui a été commencé il y a très longtemps avec des photos prises pour entrer dans ces sortes de trains que j'ai inventées, qui sont la Beaubourg, n'est-ce pas? À peine commencé les premiers éléments photographiés sur ce que je savais serait la construction entière. Ou
il faudra que ce soit une architecture frappante.
Et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ça m'a attiré. Le fait que ça n'a pas de fin, que ça va dans tous les sens, que ça n'a pas de centre, bien que ce soit appelé le centre Beaubourg, c'est un objet sans centre. Beaubourg est mon invention. Beaubourg est mon invention. C'était au moment où le bâtiment a été couvert de bâches de plastique, n'est-ce pas? Là, c'était un autre moment où j'ai pris les immeubles qui sont maintenant disparus, n'est-ce pas, qui font le fond de la rue. Enfin, je ne sais pas pour celles-là vraiment, mais celles qui sont à côté n'existent plus. Là où Gordon Matta a fait son trou, par exemple, à travers les murs, c'est juste à côté de là. Et depuis le commencement, j'ai essayer de photographier des choses qui n'étaient pas là ou qui ne seraient plus là. Alors, vous voyez vous-même qu'en regardant ce tableau un certain temps, vous voyez des choses qui vous paraissent photographiques, comme cette partie-là, par exemple, pour l'instant. Vous vous dites, ah, c'est une photo, mais ce n'est pas une photo. Ça fait partie de la sérialité qui est même exprimée par la pellicule dans les bobines, n'est-ce pas, dans l'appareil que j'emploie, tel un pinceau. Je prends l'appareil photographique de la même manière que je prendrais un crayon ou un pinceau ou un rouleau à peindre que j'ai beaucoup employé. Depuis 1961, où je l'ai inventé, où je l'ai coupé moi-même, j'ai fait un rouleau à peindre plastique à ma façon de faire ce genre de sérialité, n'est-ce pas, sans fin, qui continuait dans toutes les directions et qui pouvait être manié exactement de la même façon qu'on prendrait un crayon ou un stylo à la main. Effectivement, je m'intéressais aux écritures à l'origine. À l'armée, par le hasard de la guerre, j'ai étudié le japonais. De là, je suis allé vivre, j'avais déjà été en Afrique du Nord avant la guerre, très jeune, à l'âge de 17-18 ans, et j'y suis retourné après la guerre, et l'écriture japonaise qui était en verticale dans mon esprit était transversée par l'écriture arabe qui allait dans le sens droite à gauche et qui en faisait une sorte de grille. Et de là, j'ai inventé ce rouleau, qui est un rouleau de peintre, n'est-ce pas, et qui fait ces grilles à l'infini, mais toujours avec des permutations, des changements. Ça se répète sans jamais se répéter, n'est-ce pas? Et comme en magie, on met ou bien des écritures ou des images dans les grilles qu'on crée pour arriver à ses fins, de cette même manière, j'ai inventé des tableaux où les images étaient incrustées dans le grillage. Et donc, voilà, enfin, c'est ça, n'est-ce pas? Ça va être... C'est une sorte de grille qui sera bourrée d'images. Autant la bibliothèque que toutes les peintures, les objets d'art qui vont être là-dedans. Alors ça correspond pour moi à une chose interne vraiment très profonde. Et dans tout ça, dans ces trames, j'ai serti des photos, n'est-ce pas? Là, c'est encore avec des bâches, mais il n'y a qu'une seule photo pour vous dire ce que c'est, une autre photo, des choses qui ont disparu depuis, n'est-ce pas? Ça s'appelait Centre Beaubourg, ça va s'appeler Centre Pompidou, je crois, on y vient. Ce n'est pas un centre, c'est plutôt un aspect de la continuité, plutôt qu'un centre où les choses se centrent ou se font, n'est-ce pas? C'est une bâtisse qui n'est pas bâtie dans le sens réel du mot, où on bâtit brique sur brique, mais où on crée des tensions dans l'air, n'est-ce pas, qui peuvent être comprises aussi bien du point de vue intellectuel qu'artistique, que spirituel même.
Une continuité dans l'espace à laquelle répond une trame infinie de mots.
Calme surtout. Et c'est pour cela précisément, nous nous mettrons à la disposition des arts. Le Conseil de Paris également, on décide polyvalent, où toutes les formes artistiques pourront créer, qui veulent créer dans tous les domaines. Voilà, car c'est indispensable qu'il l'ait au cœur de Paris. Un musée, mais bien plus que cela, qu'il y a vraiment une grande liberté nécessaire dans la création de mettre une grande bibliothèque de lecture publique qui soit à la fois un musée de l'art contemporain. C'est vraiment le lieu de rencontre des hommes qui veulent innover, se retrouver, ou pourront se succéder. Est-ce que c'est ce centre du plateau Beaubourg? Et puis c'est un centre, et aussi un centre artiste. Tous les moyens modernes de création, et c'est ça que nous voulons réaliser dans le centre Beaubourg, et sur le plateau Beaubourg, un centre, vous savez que le président de la République, artistique, culturel et musique.
Couper, entrecouper, couper et réarranger les mots, permuter, les mots n'appartiennent à personne, le discours Beaubourg, une trame infinie elle aussi, où Brian Geisen, inventeur du cut-up, mise en pièces selon ses propres principes.
Explique par le ligne de la même manière, c'est donc pas centré, se servir des petites machines calculatrices infinies. Et on voit ces petits points. Ici, c'est encore tout à fait autre chose. Je crois qu'on compte faire vivre cette énorme chose sur l'eau, vivable dans le sens douillet du mot, n'est-ce pas? Les hommes d'affaires de 40 ans qui apprennent Renaissance, la maman a intéressé les gens beaucoup, après, n'est-ce pas? Et c'est, je voulais dire qu'on ne peut pas y mettre ces meubles, la naissance du palais à la disposition de six mots. On peut faire un poème de 720 lignes d'une magie qui était de l'être humain, n'est-ce pas? Son armoire bretonne, Nil, où j'ai été même la victime. Alors, la vision intérieure qui a une continuité sur étudier les grandes plantes, c'est-à-dire surtout, et j'ai ouvert le paquet. Dans le langage, j'ai voulu, n'est-ce pas? Tout ça est beau. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de la structure mat, ou de démontrer également les mécanismes, n'est-ce pas, dans des poèmes, de vous montrer d'autres choses en noir et blanc. Et j'ai gêné parce que j'ai cru que je pouvais avoir des... J'ai photographié des amis dessus, mais on m'a enlevé les plans. Je crois que ce sera la même chose pour toute cette aventure, n'est-ce pas? Une cuillère en bois, elle fonctionne. L'étude de la tension. Là, il y a le visuel de Beaubourg, n'est-ce pas? C'est Chant qui étudie la visite nocturne des cambrioleurs et un visuel, et que ça se reconnaît maintenant de Crystal Palace. Tandis que toute mon activité artistique, une divergence d'esthétique, fait partie du monde sériel, dans les limites mathématiques, qui s'exprime une phrase qui en anglais pouvait être permutée, où je n'ai fait que prendre presque pas à l'infini, mais parce que c'était avant l'imprimerie et son confort. L'architecte était un jardinier, n'est-ce pas, qui avait bien de tous les garçons de 12 ans, plan littéraire aussi bien que sur le plan vivant, n'est-ce pas, qui est maintenant à la télé, n'est-ce pas. On voit une immense tension ouverte, placée dans ce quartier. La continuité de l'information, qui est un objet cinétique devant lequel on... Ce bâtiment qui paraît fait contre moi, pousse dans les yeux, n'est-ce pas? Ma machine produit ça, elle ferme les yeux pour faire les visions intérieures et fait que ce qu'on voit en mettant les codages qui rentraient dans ma fenêtre, comme vous voyez. L'expression jusqu'ici la plus parfaite de cette sérialité. Et ce bâtiment est...
À ce point de l'expérience, posez une question ou prononcez un mot, le mot musée par exemple, et voyez comme les phrases, d'elles-mêmes, se reforment et prennent au piège celui qui les avait mises en pièces. Le discours Beaubourg, suite.
Ça va très loin, parce que au fond, ça repose sur la question qu'est-ce que c'est qu'un musée, n'est-ce pas ? Or, le musée a été dans l'histoire...
Musée.
Le problème du musée
Temple
a été
muses.
Le problème du palais.
Lieu rempli d'objets rares,
particulier
précieux,
d'un roi
beau.
Ou d'un prince qui collectionnait...
Locution familière.
Ou bien après,
musée des horreurs,
riche marchand qui collectionnait...
Réunion de choses très laides.
Un palais pour accrocher ses tableaux. Et où ? Sur le mur. Alors, c'est le problème du musée est effectivement le problème du palais... Et
ça
du
va
mur.
Profiter qui hein, les curieux.
Là, nous voyons devant nous quelque chose qui n'est pas un palais du tout, dans le sens accepté par les bourgeois du quartier, qui
ça va profiter
connaissent
qui, hein,
que
les curieux.
Les palais bourgeois du 17e, 18e siècle qui sont dans le Marais, n'est-ce pas mais qui ressemblent beaucoup plus au palais dans le sens du grand palais de 1852 en Angleterre, de Crystal Palace, n'est-ce pas ? Mon opinion personnelle est que l'invention du bâton armé était une des grandes catastrophes de l'histoire. Mais enfin, ça, c'est encore une position que je défendrai plus longuement, peut-être, en parlant de l'œuvre de Le Corbusier, par exemple, que pour moi est... une influence très nocive dans l'architecture. Mais néanmoins, dans ces mêmes théories mathématiques, on est arrivé à imaginer des structures qui se tiendraient uniquement par tension. Et le summum de ce qu'on pouvait faire dans ce genre-là est ce que nous voyons là en face de chez nous. Ça a résolu le problème espace, qui est le problème palais, et le problème mur... C'est encore à voir, je ne sais pas. On vient de passer par l'intérieur là, où il n'y a pas de mur. Et donc, on a renouvelé entièrement le problème du musée, n'est-ce pas ? Un musée qui n'est ni palais, et où est un palais en cristal, où il n'y a pas de mur. Et il sera très intéressant de voir comment ils vont manipuler cet espace. Quand j'ai exposé pour la première fois à Paris en 1935, le seul musée d'art moderne était le bâtiment qui est dans le Luxembourg, qui existe encore, mais on ne le reconnaît plus. Et ça, c'était le musée d'art moderne où on montrait le tableau qui avait gagné le prix du salon de 1863, le tableau de 64, etc. Un tableau par an, ça entrait dans ce musée. Et l'art moderne... était pratiqué par bien moins de peintres qu'aujourd'hui. Ma connaissance, il n'y avait pas plus d'une centaine de peintres à Paris à cette époque-là. Et on m'a dit à la préfecture qu'ils avaient sur carte, pour ainsi dire, plus de 75 000 artistes peintres à Paris actuellement. Je ne sais pas s'ils sont tous inscrits à la Maison des artistes, mais enfin, il y a... ce chiffre absolument incalculable de gens qui on vit une époque de révolution très vite, n'est-ce pas, dans le sens culturel du mot. Et je crois que même ce musée-là en face n'est pas déjà pas assez grand. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a des problèmes qui me font tourner la tête, enfin, auxquels je ne peux pas répondre, j'ai vraiment pas... Qu'est-ce que ça veut dire qu'un musée, d'abord, n'est-ce pas? Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un musée?
Nous autres, sous certains mais quand moi, c'est l'impression, c'est local. C'est le dernier résultat d'une bourgeoisie qui veut s'approprier de son image même à travers les artistes et la bourgeoisie, le capital, je ne sais pas, le pouvoir, de s'approprier des artistes. Et de les mettre dans un mécanisme tout à fait rigide et très bien organisé, trop bien organisé. Une centralisation du contrôle de l'art, enfin, c'est comme un computer de l'art, n'est-ce pas? Quand vous jetez des choses dans les computers, personne n'est capable de lire rien parce qu'il est dans les computers. Alors seulement l'homme qui veut sortir quelque chose peut le faire. Alors ça veut dire que la connaissance est dans les mains de cet homme. Mais ce sont des opérations qui me rendent très suspectueuse.
Mais voyez par contre, par exemple, le musée comme une machine à mémoire. Alors il est difficile de se passer à cet avenir, être sur le moment où nous sommes et avoir une opinion. Enfin, on ne peut que... Comme artiste, je ne peux que le sentir et essayer de l'exprimer de ma façon. Je ne peux pas avoir de jugement dessus. Ce n'est pas que je garde mes jugements pour moi, c'est que vraiment je n'en ai pas. Je suis comme mon invention. Une porte ouverte où le passé devient l'avenir sous ma main. Voilà, vous voyez, ce sont les permutations à l'infini, c'est l'histoire de la grille, n'est-ce pas? Ce sont tous mes intérêts artistiques qui sont exprimés là par le bâtiment même. Et effectivement, le musée est à la fois mon sujet et mon objet, puisqu'ils m'ont acheté des œuvres qui représentent le musée, qui vont entrer là-dedans. Alors c'est donc un jeu de miroir, au fond, un musée. Et ce ne sera plus le trésor d'un prince, ce sera, espérons-le, le trésor de tout un peuple. Là, on a une sorte de théâtre. Ça va être beaucoup plus un théâtre que le Louvre ne le serait jamais. N'importe combien de ballerines dansent dans la cour carrée, ce ne sera jamais un théâtre. Et on est devant quelque chose de très neuf, je crois. Pas simplement, nous avons parlé du bâtiment comme tel, mais l'utilisation est une chose qui jouera un rôle énorme, n'est-ce pas, dans l'avenir le plus immédiat. Je crois que Beaubourg, ou ce que représente pour moi Beaubourg, continuera à m'intéresser très très longtemps, n'est-ce pas?
Non, alors de toute façon, comme je disais, c'est qu'au départ, vu le cadre particulier d'un sujet de Wafidex, il n'y avait aucune tradition de zone de discussion, et qui servait uniquement à informer les étudiants.
Un tissu de paroles se déroulant à l'infini.
Jusqu'au jour où s'est développée une filière dans cet institut, proposée par un prof qui d'ailleurs est toujours responsable de cette filière, qui était l'analyse intégrée de l'espace et l'aménagement. À partir de ce moment-là,
Beaubourg cut up. Cut, Beaubourg up. Up, Beaubourg cut. Cut. Cut up.
Visiblement, les tactiques pédagogiques étudiantes, mais en laissant partir ce forme, ce diable-là. Bon, ça a tourné pendant 2-3 ans comme ça. Puis cette année, c'est devenu la grève directement, qui a permis.
Je ne sais pas s'il y a trop de production artistique. Moi, je ne connais aucune production artistique. Je connais tout simplement des horreurs qui sont fabriquées de n'importe quoi, qui n'ont rien à faire avec l'art, qui sont de l'anti-art, qui se moquent de l'art, qui se moquent de la peinture. Et je trouve que c'est absolument scandaleux de prendre ça au sérieux.
L'art qui a connu une telle expansion va pas du tout à la dérive, mais tout droit vers l'abîme. Il y a trop d'art d'abord, il y a trop d'artistes, il y a trop d'objets, n'est-ce pas, qui seront... Enfin, il y a déjà trop d'art pour... On pourrait bourrer ce musée avec tous les tableaux qui sont à Paris actuellement, et personne ne pouvait entrer dedans parce qu'il n'y aurait plus de place. la société même. Il y a trop de gens, il y a trop de personnes, il y a trop de voitures, il y a trop de bruit, il y a trop. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Venez d'écouter Beaubourg, Cut Up Essai, par Jean Montalbetti, une émission diffusée le 1er février 1977. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site franceculture.fr à la page des nuits pour la podcaster ou la réécouter.